Ouais, ici le lutin Rod, le producer officiel des lutins de l'enfer. Petite note explicative avant qu'on débute. Ce show-là est fait comme un show de radio, fait qu'on vous parle de tunes, puis on vous fait jouer les tunes dont on parle de. Alors, pour avoir l'expérience la plus bénéfique, allez sur YouTube, on vous a préparé une playlist. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est peser sur play, puis tout va s'enchaîner. Les lutins, les tunes, wouhou! Mais bon, si vous voulez rester ici, pas de trouble, on vous a mis un petit extrait des tunes entre les blocs. Alors, ben voilà, juste pour vous titiller. Alors, ben bon, titillement.
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Salutations à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode bien spécial des lutins de l'enfer. Je suis le lutin haut et j'ai la chance de lutiner avec nul autre que Sacha aka Fenrir du groupe québécois Ulfenor. Comment vas-tu, Sacha?
Ben, ça va très bien. Merci de m'accueillir ce soir.
Ben, merci à toi de prendre le temps. Ça n'a pas été évident avec... La dernière fois, on a été interrompu par le dieu du tonnerre lui-même.
Oui, c'est ça. Ça a été une journée moche pour bien du monde, visiblement.
Quand même. Au moins, on n'a pas reçu de branche par la tête, en tout cas, de mon bord. J'espère que vous autres, c'était correct.
Oui. C'est nous autres, il y a juste eu bien de la pluie. Mais moi, j'ai pas perdu l'électricité, même pas. Fait que je m'en suis mieux sorti que vous autres, visiblement.
Bon. Tant mieux. Nous autres, je l'ai reçu à 5h du matin le lendemain, fait que c'était peine perdue pour notre première session.
Ouais, c'est sûr.
Alright, ben merci d'être revenu. Puis en plus, je t'épargne une soirée de peinture, on dit que tu me disais.
Oui, exactement. Là, dans le fond, on a depuis précisément vendredi les clés de notre nouveau local de jam avec Ulfenor. Fait que là, il y a une couple des boys ce soir, dont Warg, justement, qui était censé faire l'entrevue avec nous, qui sont allés faire une couche de peinture dans le nouveau local au Marsonic à Montréal pour qu'on puisse s'emménager cette semaine. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas là avec nous ce soir.
Nice, fait que c'est dans quel coin, ça, de Montréal?
C'est quand même relativement au nord. C'est pas loin de la station Crémazie, le métro.
OK. Ouais. Parce que vous êtes de Sainte-Thérèse, je me souviens bien.
Dans le fond, le band, à la base, vient d'un peu partout. Il y en a de la Rive-Nord, il y en a de Montréal, etc. Là, en ce moment, il y en a... en fait, trois sur cinq sont rendus à Montréal. Notre guitariste, il habite dans la Rive-Nord. Il me semble que c'est Mirabel ou pas loin de Mirabel. Moi, je suis rendu à Belle-Oeil, donc dans la Rive-Sud. Je suis pas loin du Mont-Saint-Hilaire. En fait, le Mont-Saint-Hilaire, est là, on le voit pas parce que l'angle est pas bon, mais juste en avant de ma fenêtre, en avant de chez nous,
ici. Ah, tu dois avoir des beaux paysages l'automne.
Mm-hmm. Ben, les paysages d'automne étaient le fun, mais ça fait du bien de voir les paysages d'été arriver aussi.
Oui, non, ça c'est sûr. Ça fait du bien à tout le monde. A été rough.
Oui, c'est ça. On était contents que l'hiver finisse.
Totalement. Ah, c'est nice. Ça fait qu'on s'est croisés au show de Xaon et Vortex il y a quasiment déjà un mois.
Absolument. C'était notre premier show de retour en métal pour l'année 2025.
OK, nice.
Fait qu'on a un peu rushé pour le préparer, d'ailleurs, compte tenu du fait qu'on s'est retrouvé sans studio pour pratiquer quelques semaines auparavant. Mais nos amis de Sanguiné Glacialis puis Inner Turmoil ont vraiment come in clutch. Ils nous ont prêté leur local pendant les deux, trois semaines qui ont précédé le show là, pour qu'on soit capable de faire le show. Puis Après ça, on est retourné jammer au même local de ces bandes-là pour préparer le Salon de la Passion médiévale qu'on jouait en fin de semaine sur 3 jours. Fait que, ouais, ça l'a été, j'ai envie de dire, un gros coup de main, mais encore plus qu'un gros coup de main, c'était pretty much un miracle qu'on ait pu réussir à monter ces deux shows-là avec le peu de temps qu'on avait, et puis le fait que ça nous prenait un local. Bref, c'est des petites complications comme ça de la vie, mais bon, c'est
ça, des arrive. Choses qui arrivent.
Ben, ça peut te rassurer, ça n'a pas paru du tout. C'était un super bon show. Là. J'ai vraiment beaucoup apprécié toute votre présence sur scène aussi. Là. Je connaissais pas votre groupe. Fait que c'était une belle surprise beaucoup. De vous découvrir.
Ben, ça fait plaisir. Nous autres, c'est toujours le fun. On aime notre crowd qu'on connaît et qui nous connaissent forcément. Il y en a, c'est même devenu des amis, là, mais. C'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir du nouveau monde dans les shows parce que c'est une expérience différente pour eux, c'est une expérience différente pour nous. C'est tout le temps un peu plus excitant quand on sait qu'il y a des personnes qui nous connaissent pas dans la crowd, surtout quand c'est une majorité de crowd qui nous connaît pas, qui était pas le cas à ce show-là, mais c'est joué avec des bands comme Xaron, justement, et Vortex. Vortex, d'ailleurs, je me souviens qu'on avait... On avait déjà partagé un bill avec eux. Si je ne m'abuse, c'était pour le... C'était un petit festival au Piranha Bar, mais je me rappelle plus c'est lequel.
OK.
Fait que c'était pas la première fois qu'on les croisait, mais les autres, ouais.
Ouais, Xaon, c'était leur première fois en Amérique, fait que c'était...
Ben oui, des compagnons qui viennent de la France et la Belgique. Si ça aussi, c'était. On a joué un show acoustique avec des artistes européens, Scald, qui était venu de France.
Ben oui.
Mais c'était la première fois pour nous qu'on faisait un show de métal avec des confrères métalleux qui arrivaient tout droit d'Europe. Là. Fait que c'était quand même une belle première pour nous aussi.
Par qui que vous avez réussi à être sur ce show-là?
Ben Stage Fright Entertainment, Paul Lanoux, ouais. C'est lui qui a monté tout ça. Comme chaque fois qu'on fait affaire avec lui, c'est un vraiment bon promoter. Puis on a bien du fun à chaque fois qu'on joue avec lui. On a c'est pas une équipe de monde qui travaille tous ensemble, mais on a une petite équipe de gens que nous on connaît avec qui on fait. Relativement souvent à faire pour le booking, de Pierre Beaubien, Patrick Latour, Kaboom Management, puis donc évidemment Paul Lanoux avec Stage Fright. Mais Stage Fright puis Kaboom font souvent aussi ils se donnent des coups de pouce, etc. Là, fait que c'est pas des entités qui sont reliées, mais c'est des entités qui sont habituées de travailler ensemble / autour de l'un et l'autre en harmonie, tu sais.
Ouais, parce que c'est une petite scène quand même, malgré tout. Beaucoup de monde qui se connaissent puis qui s'entraident. Là.
Ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même réseau de contacts. Fait que tu sais, mais là où est-ce qu'il y en a un qui va avoir en masse de contacts à Montréal, l'autre, il va en avoir plus à Québec ou en Ontario, tu sais. Fait d'où pourquoi c'est le fun de faire travailler du monde comme ça ensemble. Puis ben, les bands, organiser des shows de métal, c'est ça que ça fait.
C'est nice. En tout cas, merci d'avoir participé. C'était vraiment cool.
Ouais, mais man, on avait juste hâte de revenir jouer du fucking metal. Là. Genre, on a passé un long hiver sans faire de show parce qu'on avait fait une petite tournée à l'automne, justement avec Paul. En plus, on est en train de finir un processus d'album qui a été vraiment, vraiment très long. Fait que cet hiver, on a pris un long, long break de faire des shows. On a juste fait un petit peu d'acoustique à Abbey Collins cet hiver, mais à part de ça, on avait vraiment, vraiment rien fait. On n'a même pas jammé pendant tout le temps des fêtes et compagnie. Là. Genre, ça a duré un mois et demi, 2 mois. On n'a même pas fait de musique. Là.
Ah ouais.
Fait qu'on était vraiment dû pour revenir sur stage après pour le 25 avril. C'était le fun.
C'est nice. Ouais. Ah, fait que parle-nous un peu de band, le Fenor, ça fait combien de temps que vous existez? Comment c'est venu au monde, ce projet?
Ben, oh, damn, okay, on va remonter loin dans le lore. Dans le fond, moi j'ai 25 ans maintenant, puis on est on est à peu près tous dans la mi-vingtaine dans le band. Puis à la toute base, j'avais commencé à envisionner le projet du band moi tout seul, genre en 2017-2018. Genre, à plusieurs fois, quand j'étais plus jeune, j'avais essayé de former les bands pour faire de la musique avec du monde, mais ça avait jamais marché parce que c'était le secondaire, fait que personne n'avait la motivation ou le temps, genre.
Ah ouais.
Mais puis finalement, ben c'est avec un de mes vieux chums de secondaire, puis mon bassiste, Warg, qui était un chummy que j'avais rencontré en camp d'été, imagine-toi donc. Une couple d'années après, quand je me suis dit là, je suis tanné de fucking, tu sais, juste, petit, là, on va faire un band. Tu sais, je vais appeler les 2-3 caves que je connaisse, qui je sais qu'ils font de la musique. Puis, tu sais, bon. Fait que mon vieux chummy du secondaire jouait de la guitare. Warg, que j'avais rencontré en fucking camp d'été médiéval. Mais je me rappelais qu'il aimait ça jouer du métal, puis qu'il jouait un peu de bass. Fait que je l'ai appelé, tu sais, un moment donné, en plein milieu de la journée au cégep. Puis j'étais genre, ouais, tu fais ça encore de la bass? Il me dit, ben oui. J'ai dit, Chris, tu veux-tu jouer dans mon band? Il me dit, ben oui. Fait que genre, ça a été aussi facile que ça.
Puis, et vous étiez deux. Après,
ouais, ben on était trois parce que j'avais déjà l'autre, mon guitariste qu'on se connaissait depuis un peu avant.
OK.
Puis ensuite de ça, à la toute base, on n'avait pas de drummer qui savait jouer. Moi, j'ai joué un peu de drum dans la vie, mais je suis loin d'être un expert, mais on avait juste pas de drummer au début. Fait que au tout début, j'ai composé une couple des parts de drum. Puis in the end, avec le cégep, on a rencontré un autre guitariste puis un drummer qu'on a fini par ajouter au line-up. Puis c'est ce line-up-là de 5 qui existe depuis. Fait que là, on arrive à 2019 à peu près qu'on a formé le réel line-up. Puis on est toujours ce même line-up-là depuis. On n'a jamais arrêté.
C'est un super bon timing pour starter un band en 2019.
Oui, ben après ça, forcément, on pouvait pas prévoir l'avenir. Mais en fait, justement, tu ris, mais notre premier show à vie, c'était le 14 février 2020.
Oh boy! Fait qu'il y a eu lieu.
Il y a eu lieu! Ouais. Il y a eu lieu. Puis le pire, c'est que ça a été... Notre premier show a été un franc succès. On a nous-mêmes été... surpris, là. T'sais, on a fait affaire avec Nick Guérin pour le Piranha Bar avec Dungeon Works. Ça, c'était avant même qu'ils fassent les rénovations en bas.
OK.
Puis, il nous a proposé le 14 février. Puis, je me rappelle, en plus, les boys étaient même pas sûrs. Ils étaient comme, ouais, mais tu sais, on n'a pas eu le temps de genre bien monter un set encore. J'étais comme, les frérots, il faut. Là, on a une vraie opportunité pour un premier show. On va le winger, on va le faire, mais il faut qu'on le fasse parce que Dieu sait si on va avoir une opportunité comme ça après.
C'était prophétique.
Finalement, ça s'avérait être légèrement prophétique parce que le show a eu lieu, tout s'est fucking bien passé. À nous tout seuls, on a vendu genre 85 billets.
Ah ouais, quand même.
C'était un show à 4 bandes, là, fait que le Piranha Bar était foulé, pretty much. Là. Puis il y a plein de monde de promos qui étaient là, qui nous ont vu apparaître de même comme un cheveu sur la soupe, qui étaient comme « What the fuck, man? C'est qui ces garçons-là avec des fucking poils sur les épaules? » Puis genre « What the... » Fait que après le premier show, il y a plein de monde qui nous ont envoyé des messages de comme « Hey, c'était vraiment cool, blablabla. Je pense que on pourrait vous booker à telle place. » Puis on a commencé à booker plein d'autres shows. Puis là, ben, mars 2020 est arrivé, puis toutes ces shows-là ont pris le bord.
Aïe, aïe. Ben, au moins, vous saviez que vous aviez une recette gagnante quand même, tu sais, ça a servi à ça.
Ben, c'est ça. On a eu la confirmation que comme ce qu'on faisait, ça avait du potentiel parce que le monde avait beaucoup aimé le show. fait qu'in the end, au lieu de continuer à faire des shows, ben, on a commencé à travailler sur un album, tout simplement. Parce qu'on pouvait rien faire d'autre. T'sais, on était confinés, tout est parti en sucette. Fait qu'on se voyait une fois de temps en temps pour composer, une fois qu'on a eu le droit de ressortir et de voir du monde. Entre-temps, les gars, ils composaient tous chacun de leur côté. Puis, t'sais, ça a donné lieu finalement à notre premier album qui est sorti en 2021.
La composition à distance, avez-vous essayé ou même pas?
Ben, c'est-à-dire, il y a eu de la composition individuelle à distance, c'est-à-dire que chacun composait un peu des idées, genre de chacun de son bord, mais mettons, s'il y a quelqu'un qui composait s'il y a des chansons qui se composaient, mettons, c'est un des gars de son bord qui va comme map out ou créer une idée de chanson, puis qui va après ça l'apporter à la gang, puis qu'on va en faire de quoi tout le monde ensemble après. Ou bien c'est de la composition où est-ce que genre tout le monde en fait un peu, ou c'est mon guitariste puis mon bassiste qui font une composition ensemble. Tu sais, les compos sont assez variés dans la sélection de c'est qui compose la toune. Mais pendant qu'on faisait, tu sais, quand notre album, c'était les chansons qu'on avait déjà montées pour notre premier show, donc c'était des tunes qu'on avait déjà composées. C'est après avoir fait l'album 1 que là, il y a eu de la vraie composition à distance, justement, qui a donné lieu aux deux albums qu'on a sortis dans l'automne et l'hiver qui viennent de passer.
OK, ouais, super intéressant. Puis pour ceux qui ne vous ont pas encore vu, vous avez une thématique viking très forte. Là, ça a dû contribuer à votre succès. Vous allez même chercher des trucs très nichés comme Gleipnir, la fameuse chaîne qui attache justement Fenrir.
Yes, sir.
C'est très nice. Par hasard comme ça, peux-tu nommer les ingrédients qui sont servis pour fabriquer la chaîne?
Ben, on sait tous que les vieilles légendes racontent que les chaînes de Fenrir sont forgées avec ce qu'on ne peut pas voir et ce qu'on ne peut pas entendre. Ce qu'on ne peut pas voir comme les racines d'une montagne, ce qu'on ne peut pas entendre comme les bruits de pas d'un chat au sol. Ce qu'on ne peut pas voir comme la respiration d'un poisson, par exemple.
Ah ben ouais, t'es ça quasiment tout. Hein? La salive d'un oiseau.
Oui, aussi.
Fait que c'est vrai, là, vous tripez vraiment beaucoup là-dessus. Là.
Ben, moi, principalement, c'est une passion que j'ai depuis très, très longtemps, que j'ai développée dans ma jeune adolescence que j'ai découvert à travers des romans fantastiques Amos d'Aragon. Là.
OK.
Brian Perreault est un écrivain remarquable, considérant le fait qu'il mélange absolument seamlessly des vraies mythologies, de l'inspiration historique et un univers complètement créé de toutes pièces. Bref, grand fan à titre personnel. Puis c'est ça qui m'a comme turn on, c'est ça qui m'a fait découvrir la culture viking entre guillemets. Plus j'ai vieilli, plus j'ai comme découvert la réalité de ça, l'histoire, les mythes et légendes et compagnie. Puis c'est devenu tout simplement une passion. Une passion.
Ouais, parce qu'il y avait une autre série de livres aussi. Il y avait Amos d'Aragon, mais il y en avait un autre que... le titre ne me revient pas, mais tu sais, la première série, c'était avec les dieux grecs.
Oui.
Ah.
Oui. Mais c'est parce que moi, l'autre série de romans, l'autre série de romans que j'ai eu de Brian Perreault, ça s'appelle Wari Wolf. C'est un peu plus pour adultes, là. Mais c'est le même genre de truc un peu mythologique, etc. Puis c'est bien bon. Mais non, je vois de quoi tu parles, mais moi non plus, le nom ne me revient pas.
Ah. Ça m'écoeure tellement.
Fait que. Donc. Mais bon. C'est moi à la base qui a comme incorporé un peu. Tu sais, quand on a créé le band, puis que c'est moi qui ai initié le projet, ça a fini un peu par faire comme, OK, mais on a-tu un plan? C'est quoi le plan? On a-tu des idées, genre? Puis j'étais comme, ben, moi, ce à quoi j'avais pensé, c'est ça. Parce que pour telle et telle raison, tu sais, justement, le fait d'avoir une esthétique, le fait d'avoir une thématique, le fait, tu sais, de la mise en scène, les costumes, etc., on n'a pas fait ça par hasard. Tu sais, c'était une décision artistique délibérée. Fait que t'sais, tout était déjà prévu dans la création du truc. Avant même qu'on ait de la musique, on savait ce à quoi on allait ressembler.
OK.
Puis on savait un peu comment on voulait sonner. Mm-hmm. Mais Ulfenor, c'est un groupe de 5 personnes, puis les 5 personnes ont des influences musicales extrêmement variées. Moi, j'ai autant grandi sur Hendrix que Frank Zappa, puis quand j'ai découvert le métal, j'ai découvert le métal à travers comme du genre hardcore, deathcore. Puis après ça, je me suis comme rééduqué comme du monde, on va dire, dans le métal classique, plus classique, là.
Ouais.
Mais tu sais, mon bassiste, c'est un gros, gros gars de black metal, un de mes guitaristes aussi. Mon drummer, c'est plus un gars qui aime les trucs dans sa famille. Il aime bien genre le free jazz et compagnie, fait qu'il aime bien les trucs un peu techniques, prog, whatever. Tu sais, fait que tout le monde a des influences très variées. Fait que c'est ça qui fait que le Fender, d'une chanson à l'autre, va aller puiser dans des inspirations complètement différentes. Je trouve ça comique parce qu'il y a beaucoup de gens qui analysent ça comme étant un manque de direction artistique, ce qui est drôle justement vu que c'est ouais. très délibéré, genre c'est, ouais, ça ouais. fait partie de la démarche artistique, bref, mais moi en tout cas,
c'est clair. Non, mais c'est je trouve à cette heure de nos jours, c'est ça qui attire, tu sais, si t'écoutes un album puis que t'as plusieurs influences, tu sais, je pense entre autres à Fall of Stasis, on viendra peut-être à eux un peu plus tard, mais eux aussi c'est la même chose, ils ont un melting pot de death, de black, de fait que, mm-hmm. c'est ça qui rend un album plus intéressant, qui fait qu'il va se démarquer que juste faire ok les 8 mêmes tunes de trash metal qu'on a entendu depuis 40 ans.
Bon, ben je suis 100% d'accord.
Ouais. Pas qu'il y a pas, c'est bon aussi, tu sais, regarde, moi j'suis un fan de Amon Amarth, puis il y en a qui disent qui font la même tune aussi depuis un bout, mais eux je trouve qu'ils la font vraiment bien, fait que je les pardonne.
Mais c'est ça, voici, c'est pour ça aussi que ce genre de critiques là ils font les mêmes chansons depuis 30 ans, c'est genre ben oui, mais regarde, quand toi t'auras atteint le niveau que eux ils ont atteint, tu pourras te reposer sur tes lauriers puis composer la même tune pendant les 20 prochaines années. Personne va t'en vouloir parce que tu vas t'être rendu là au préalable.
Ben quoi que les gens ne croient pas, mais même Amon Amarth, ils varient un peu. Ils ont ajouté, ils ont fait une tune sur Hadrian qui est un peu plus folk. Puis.
Absolument, ils vont avoir des tunes vraiment plus death, ils vont avoir des tunes un peu plus folk, ils vont, tu sais, à mon avis, ils font bien les affaires, puis comme, oui, ils ont une ligne directrice continue à travers la musique qui s'appelle la tonalité ou la sonorité du band, tu sais, comme chaque ouais. band de metal a une sonorité qui leur est propre, tu sais, que tu reconnais, idéalement, c'est comme ça que tu rends un band distinctif et intéressant, là. C'est de pas sonner comme tout le monde et de pas faire la même chose que tout le monde. En tout cas.
Ouais. Je sais que le chanteur d'Amon Amarth, justement, il fait beaucoup de recherches pour écrire ses textes, puis il creuse beaucoup dans la mythologie. C'est quelque chose que tu fais aussi, tu sais, que tu vas voir dans les proses Edda, puis tous les textes d'origine pour essayer d'aller chercher de l'inspiration.
Tu me devances en mentionnant la prose Edda déjà, parce que dans justement la toune titulaire du deuxième album de. Ah ben oui, hein. Dans le fond, le dernier projet qu'on a sorti, c'est deux petits albums qui sont en réalité un seul projet qu'on a séparé en deux pour des raisons promotionnelles, économiques et autres.
Mm-hmm.
Mais finalement, c'était comme bien foutu parce que ça a permis de faire, tu sais, comme expérimenter le premier tout seul, ensuite expérimenter le deuxième tout seul avant de pouvoir avoir le full on tout d'une shot.
Ah ouais.
Mais donc, dans cette deuxième partie d'album-là, il y a qui s'appelle The Final Strife, il y a la tune titulaire qui s'intitule donc The Final Strife, qui est une chanson de presque 13 minutes.
Tout à fait.
Qui décrit en détail le Ragnarok à partir du début à la fin. Donc, le début de la toune, c'est vraiment comme l'annonce du début du Ragnarok avec les présages, etc. Et dans plusieurs sections de cette toune-là, ben, les paroles, c'est juste directement moi qui récite des quotes spécifiques de l'Edda. En parler. spécifique à la période, la ligne du temps, la ligne temporelle de l'histoire. Fait qu'il y a mes couplets à moi que j'ai écrits. Puis là, entre ces couplets-là, ben là, on a inséré des sections de la prose pour que ça fasse la ligne directrice entre la vraie, entre guillemets, la vraie histoire et notre histoire, comment nous, on la raconte.
OK. Ah, c'est nice.
Puis donc, fait que c'était une façon un peu alambiquée de répondre à ta question. Oui, il y a quand même une certaine quantité de recherche qui va dans l'écriture des tunes. Que ça soit quand on insère des bouts dans des en finnois ou en peu importe dans des chansons parce que c'est des punch importantes, whatever. Ou bien quand moi je m'amuse pas à name drop des entités ou des dieux ou des affaires de même sans savoir ce que c'est, tu sais, parce que moi, j'aime écrire mes textes autour de ces trucs-là. À la base, la chanson Gleipnir, on savait qu'on voulait écrire une toune sur le binding de Fenrir et Fenrir qui brise ses chaînes. Mais pendant très longtemps, la pré-prod s'appelait juste genre Chains of Fenrir parce que on n'avait pas pris une décision exécutive sur comment ça allait s'appeler. Puis c'est à la fin du processus, quand il est venu le temps de créer justement le packaging de l'album, la direction artistique de l'album, comment, tu sais, les titres de toune finale, le design du booklet et compagnie. C'est là que j'ai pris des décisions, entre guillemets, finales sur le nom des chansons, puis je voulais pas que ça sonne juste basic. C'est en écrivant la toune que j'ai utilisé le mot Gleipnir pour parler des liens, puis je me suis dit, bon, parfait, le titre, ça a juste besoin d'être ça, c'est de ça que ça parle.
Ouais, non, c'est ça, puis ça fait un peu plus recherché aussi, entre guillemets.
Ouais, ben c'est ça, ça fait un peu plus recherché. Tu sais, moi j'ai pas de formation de professionnel ou académique en histoire, mais c'est juste une très grande passion dans ma vie, puis j'aime ça pouvoir l'exprimer à travers la musique, justement en flexant un peu les skills les références historiques et tout ça.
Ouais, ouais. C'est une thématique qui a eu quand même beaucoup de, comment dire, de succès dernièrement. Tu sais, il y a eu la série Viking, God of War, les jeux vidéo. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont un peu surfé là-dessus. En tant qu'amateur, c'est quoi la chose que tu trouves qui a été le plus bâclé dans ça puis qui t'a un peu plus comme frustré?
Ben, la série Vikings était à la télé quand moi j'avais genre 14-15 ans. Donc, comme beaucoup, beaucoup de gens, tu sais, je veux dire, j'étais déjà
allumé.
Comment dire? Mais oui, j'ai comme la spark par rapport à ça était déjà allumée, mais quand la série Vikings est arrivée, sans prendre nécessairement tout pour du cash, moi aussi je suis parti dans la hype de ça parce que à l'époque, c'était révolutionnaire d'avoir un gros piece of media qui faisait à moitié semblant de vouloir montrer une vision historique des Vikings, tu sais, genre non, c'est pas une depiction super super comment dire super super recherchée en termes de, mettons, vestimentaire, les armures, etc. Mais il y avait quand même un semblant de vouloir montrer la vraie culture viking, pas le viking fantastique avec des cornes sur sa tête, etc., etc. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de bon vouloir, mais il y a un peu trop de monde qui ont pris ça pour du gros cash dur et qui se sont fait une vision assez erroné de ce qu'est la culture viking de manière générale. Mais tranquillement, pas vite, j'ai l'impression que le misinformation, genre, tu sais, commence à tomber de plus en plus parce que ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que les découvertes archéologiques là-dessus continuent d'affluer. Ça, c'est un des trucs qui me rend le plus heureux sur Terre, c'est que genre à toutes les semaines, il y a un bout de, bon, pour des raisons un peu trash malheureusement, mais à toutes les semaines, il y a un bout de décalotes polaires qui font genre en Scandinavie, puis là genre tu trouves plein d'affaires fucked up genre qui confirment des théories ou de whatever, tu sais. Le fait qu'il y a encore masse de découvertes archéologiques là-dessus, c'est le fun parce que ça nous permet d'en découvrir plus et de mettre des réalités définitives sur des choses qui étaient jusqu'à présent des concepts ou des théories. Mais d'un autre côté, ça démonte des siècles et des décennies de choses préconçues, de trucs qu'on s'imagine ou de culture populaire ou de whatever. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est mentalement prêt à faire face à la dure réalité de à quoi ça ressemble la culture et l'histoire viking par rapport à ce que tu penses que c'est.
Mm-hmm.
Mais pour ceux qui se donnent la peine d'explorer ça en profondeur, ben c'est tu sais comme oui, c'est genre ah, damn, c'est plate de savoir que genre il y a tellement de monde qui pensait que ça c'est une réalité. Mais au moins, c'est cool de savoir que là, on sait c'est quoi la vraie réalité par rapport à ça.
Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Ça, malheureusement, c'est pas un peuple qui écrivait beaucoup, tu sais, contrairement aux Égyptiens ou quelque chose comme ça. Fait que c'est dur.
Non, contrairement aux Romains qui aimaient bien gros ouais. écrire à propos de ce qu'ils faisaient. Genre.
Ouais, c'est ça. Dont César qui adorait raconter ses exploits en long et en large. Un peu romantisé, mais bon.
Ben c'est parce que malheureusement slash heureusement c'est parce que c'est ça qui a créé la culture. C'était comme beaucoup d'autres affaires, c'était plus une culture orale. Ouais. Les sagas ont été racontées pendant plusieurs centaines d'années avant d'être finalement mises à l'écrit. That in itself ayant été une couple de siècles après les dernières personnes qui l'ont raconté par tradition orale, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, il y a ben gros des affaires qui se perdent à un moment donné, là.
Ouais, c'est ça. Tout le Danemark et ces endroits-là étaient rendus chrétiens quand celui qui a écrit les Prose Edda a décidé de le noter.
Exactement.
T'sais.
Puis, tu sais, sinon, les seuls.
Qu'on l'ait.
Oui, non, c'est ça. Puis sinon, les seuls écrits qu'on avait par rapport à entre guillemets, l'époque viking, ben c'était des témoignages, justement, de chrétiens, donc en Angleterre ou chez les Francs, ou peu importe, dans les premiers raids et compagnie, qui, eux, voyaient ça à travers les lunettes de la chrétienté comme étant, genre, la fureur du bon Dieu qui s'abattait sur les pauvres croyants, tu sais, genre... C'est pas la fureur du bon Dieu, mon homme, c'est juste des fucking dudes qui arrivent du Nord qui ont pas assez à bouffer pis pas assez de cash pour survivre, genre. T'sais, pauvre toi, ouais. C'est tombé sur toi.
C'est sûr que ça devait pas être trippant d'être du point de vue de ceux qui reçoivent ces personnes-là, mais bon.
Ah non, mais c'est clair, là. C'est sûr que si moi j'étais un pauvre paysan chrétien pis que, genre, je voyais fucking sortir une figure noire à tête de dragon, genre, de la tempête qui t'sais, sur la mer, bon, si je me pisse dessus puis je me mets à implorer le bon Dieu, là, t'inquiète, hein, mais
c'est clair.
Malheureusement, tu peux pas prévoir que quand il y a des gens 800 ans plus tard qui vont essayer de décortiquer à quoi ça ressemblait l'époque ouais. où est-ce que tu vis. On peut pas avoir le foresight, malheureusement, de se dire qu'il y a des gens qui vont essayer d'écrire notre histoire. Tu
n'avais pas l'envers de la médaille, mettons, jusqu'à tout récemment.
C'est ça.
Ouais. Ben, c'est bien intéressant. Mais écoute, ce qui est intéressant aussi, on va revenir à votre musique. Parce que si tu veux bien, on va partager trois pièces de votre band. Fait qu'on va aller écouter ça. Puis on va revenir après pour la suite. Fait que on va écouter trois pièces du dernier album / EP. Comment vous êtes? Vous appelez ça un album?
On va appeler ça un EP parce que l'album est divisé en deux EP.
Ouais, ça, parce que j'étais confus là, sur Spotify, t'en as un qui est un album puis l'autre qui est un EP. Fait que...
c'est purement à cause de la.
C'est l'algorithme. Ah ouais, ok.
C'est parce que le deuxième, il y a une tune de 12 minutes dedans. Ça.
Ok. Alors, c'est ça, parce que même la durée des deux est quand même proche. Il y en a un qui fait 30 minutes 23, puis l'autre fait comme 29 minutes quelque chose. Fait que c'est 30 minutes le cut-off.
Je pense que ça doit être 30 minutes.
Imagine. Ah ouais, c'est ça, 29 minutes 9 secondes, puis l'autre fait 30 minutes quelques secondes. En tout cas, bref, fait que c'est deux EP, partie 1 et 2 d'un album, appelons-le comme ça. Fait que là, ça va être, on va écouter justement la pièce qu'on parlait tantôt, Gleipnir. Je prononce sûrement pas aussi bien, mais Donc ça, c'est une de vos pièces un peu plus justement à monamartesque qui rentre un peu plus dedans.
Un peu plus death metal.
Ouais, bien apprécié la pièce.
Non, ben c'est le fun, ça.
Ce sera suivi de Tales of Aeons Past, qui elle est un peu plus sur votre côté. J'ai remarqué un côté folk dans l'album. Je sais pas si c'est un peu comme ça, là, une toune de feu de camp.
Oui, exactement. On a des petites influences folk, puis ça nous arrive de faire de l'acoustique une fois de temps en temps. C'est quelque chose qu'on aime. Fait qu'on, c'est une compo acoustique qu'on a mis pour donner un petit break au milieu de la grosse violence.
Ouais, puis vous avez fait un clip avec, c'est ça, c'est littéralement vous qui l'a joué autour d'un feu de camp, quasiment.
Quasiment. Il manque juste le feu, mais on a des bougies, par contre.
Ouais, ça compense. Ouais, du feu à petite échelle.
On pouvait pas mettre le feu de camp en intérieur, malheureusement.
Oh. Next time.
Oui, absolument.
En CGI, je sais pas.
Ouais.
Right. Fait qu'on va aller écouter ça, Tales of Aeon Pass, mais tout d'abord... La chaîne qui retient Fenrir, Gleipnir.
Tel que promis, voici un extrait ridiculement court des tunes que les lutins viennent de parler. On peut pas vraiment mettre plus sans se faire actionner. Mais bon, là, si vous aimez ça, la playlist complète est disponible sur notre site web ou l'expérience totale est disponible sur YouTube.
Et nous sommes de retour au Lutin de l'Enfer dans cet épisode bien spécial avec Sacha, aka Fenrir du groupe québécois à thématique viking Ulfenar. Nous venons d'entendre la pièce The Final Strife de la moitié d'album qui porte le même nom paru un peu plus tôt cette année. Et Sacha, on parlait un peu de votre vidéoclip Tales of Aeons Past avant la pause. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un dans le band qui s'occupe des vidéos de votre côté ou c'est comment ça marche?
Nous autres, c'est Ati, notre deuxième guitariste, qui fait toute notre production vidéo. Ben, pas les vidéoclips, là. On a un producteur qui fait nos vidéoclips, mais tout ce qui est notre production de vidéos promotionnelles et behind the scenes et vlog et chaîne secondaire et compagnie, c'est notre guitariste qui gère ça.
OK. Ouais, c'est de l'ouvrage.
Oui, absolument. Mais on a délégué les tâches importantes à faire dans le band à ceux qui avaient les capacités slash la motivation de le faire. Fait que mon bassiste Warg, il fait une grande majorité de la gestion du band. C'est ça m'arrive avec lui de faire une partie du booking, etc., mais c'est en très grande majorité Warg qui fait la gestion interne du band et externe aussi. Puis donc, il y a Ati, notre guitariste, qui fait notre production vidéo pour les behind the scenes, etc. Moi, je fais toute la production costume, accessoires, direction artistique, les décors, etc. Ceci dit, maintenant, pour les tournages, il y a Ati, notre guitariste, qui a commencé à endosser une partie de la direction artistique aussi, donc c'est le fun, ça aide encore plus à répartir les tâches. Ouais.
Ouais, c'est cool, parce que, tu sais, vous avez vraiment un look professionnel, tu sais, avec la production de l'album aussi, on l'a entendu entre votre premier album puis celui qui vient de sortir, il y a quand même une bonne step entre les deux.
Ben, et c'est fou d'ailleurs parce qu'on l'a fait avec la même personne. On a enregistré l'album avec le même producteur. Donc, ça démontre non seulement notre progrès à nous, mais aussi son progrès à lui, qu'on ne peut jamais trop mentionner. Anthony Lepage à Nova Sound Studio sur la Rive-Sud. On le salue absolument parce que sans lui, ça n'aurait pas eu lieu. Puis tu sais, comme oui, quand tu prends ça avec le recul, le premier album, entre guillemets, peut faire dur quand tu compares. Mais tu sais, c'est ça, un premier album.
Oh, genre, ouais. Il y a des pires premiers albums que ça sur les réseaux.
Ça me fait très plaisir de te l'entendre dire.
Ouais, même les bandes très professionnelles, mon amarte, leur premier album sonne dégueulasse, mais bon, il y a l'époque aussi.
Oui, c'est sûr qu'on l'a eu plus facile pour un band qui commence pour faire un premier album que des bands comme Amon Amarth et compagnie l'ont eu à leur époque quand c'était beaucoup moins accessible de produire de la musique pour quelqu'un qui travaille pas là-dedans ou whatever.
Ouais, c'est ça, les moyens maintenant sont rendus... C'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Non, c'est ça. C'est sûr, il y a un apprentissage, mais n'importe qui peut acheter une carte de son, un MacBook, puis un micro, puis commencer à produire de la musique. En fait. C'est quasiment épeurant à quel point. Genre, tu peux faire beaucoup d'affaires avec juste une carte de son, un micro, puis un fucking MacBook. Là.
Ouais, ajoute une guide que tu peux plugger, puis that's it.
Ouais, exactement. Mais tu sais, même là, comme si t'es bien zéleux, tu y vas avec une guide que tu plugs, mais sinon, tu sors juste fucking GarageBand puis tu fais ta compo, genre, sur GarageBand, ou tu sais, tu fais ça en MIDI ou peu importe, puis comme t'es capable de faire des pré-prods déjà.
Ouais, ouais.
Nous autres, c'est précisément comme ça qu'on fait nos pré-prods pour les envoyer à notre producteur avant d'enregistrer, là. Genre, les gars, ils sortent fucking GarageBand ou whatever. Il commence par nous faire un midi de drum, puis après ça, tu sais, on s'en va enregistrer par-dessus. Puis dans les derniers shit, genre, il y a mon drummer qui rentre en studio pour faire un review du drum, genre mécanique, puis apporter les touches qui font en sorte que ça sonne plus organique, puis que ça va être jouable en live.
Ouais, c'est un bon choix que tu puisses le jouer pour vrai.
Ouais, ben c'est ça. T'sais, on aimerait bien enregistrer du drum organiquement, mais ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais.
C'est ça.
Parce que vous investissez quand même pas mal, j'imagine, pour avoir un son comme ça.
Ouais, tu dis on a une touche professionnelle, c'est sûr que on fait affaire avec les personnes, des individus le plus professionnels possible depuis le début, malgré le fait qu'au début, on payait ça de notre poche sur des salaires de collégiens, là, sans joke. Mm-hmm. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la recherche sur toutes les gros bands de métal que j'aimais pour savoir comment moi j'allais créer mon band. Je me rappelais avoir lu que tu sais, Slipknot, ils avaient payé leur première EP de leur poche, puis c'était comme 10 000 US. J'étais comme ça, créant, man, 10 000 ça me semble bien trop énorme pour enregistrer un EP. Fast forward, 2 ans plus tard, on enregistre un album de comme 5-6 tunes, puis on a déboursé quelque chose comme quasiment 6 000 de notre poche, comme je dis, sur des salaires de collégiens. Après ça, on est allé tourner des vidéoclips et compagnie. Ça a monté ça quasiment à la fin du cycle de ça. Après, comme 2-3 singles puis l'album au complet, ça avait quasiment monté à 10 000 $. Tu sais, c'était shot par shot, genre. C'était pas tout d'un coup, mais on avait quand même dû chier, genre quelque chose comme 10 000 $ de budget pour sortir ce qu'on voulait sortir de la manière qu'on voulait le sortir.
Là-dedans, t'inclus sûrement pas toute votre gear puis tout ça. Là.
Non, même pas, non, évidemment. le gear était déjà là.
Ouais. Fait que est-ce que
après
ça vous...
on a...
Ah, vas-y.
Ben, puis après ça, en plus, on a dû s'équiper en gear pour les shows.
Ouais.
Genre, ce qui était une autre affaire. Mais oui, excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est-tu quelque chose qui vous décourage un peu de... de voir la colonne revenu versus la colonne dépense ou comment
non,
vous envisagez
parce
ça?
Que, ben, non, parce qu'entre-temps, ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait des shows. Ça fait 5 ans qu'on fait des shows, qu'on vend de la merch, qu'on vend des albums, qu'on travaille très fort pour faire vivre le band. Donc, depuis une couple d'années, on est rendu à un point où est-ce que le revenu de band, le revenu de band versus les dépenses de band s'équilibre.
OK.
Ce qui est quand même, tu sais, assez exceptionnel pour, ouais, un band qui a notre âge, tu sais, on va pas se mentir, mais nous autres, on travaille fort puis on bûche pour maintenir ce statut-là parce que c'est, tu sais, des fois, il y a des moments où est-ce que c'est plus tough puis qu'il faut qu'on redébourse un peu d'argent de notre poche, mais maintenant, c'est très, 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 très rare. Okay. 99,99% des dépenses du band, c'est les revenus de band.
OK. Ça inclut-tu comme en mettre de côté pour un prochain album ou...
Oui, tout. La production de merch, production d'album, production de vidéoclip, le gaz pour les shows, tout ça, là, genre, c'est... Ouais.
Fait que vous regardez vos revenus, puis vous êtes capable de projeter un prochain album dans quelques années? Ou?
Ben, écoute, c'est sûr qu'on veut produire plus d'albums, puis qu'on est loin d'avoir fini de s'exprimer musicalement. Ceci dit, il y a eu comme quand même des gros développements pour nous cet hiver parce que pour la première fois, on est rentré en discussion sérieuse avec des labels pour donc potentiellement des deals sur la, tu sais, pour les productions des prochains albums. Fait que là, en ce moment, on maintient un statu quo parce qu'il fallait qu'on finisse de chier l'album qu'on était en train de faire depuis un an et demi puis qu'on était à bout de force avant de faire des deals de comme « OK, on prend en charge la promo toute de votre album » et blablabla. J'étais comme « OK, gros, on a déjà 60% de ce truc-là fini. Fait que on va faire ça, on va le sortir. Dis-nous ce que t'en penses après puis si tu considères que ça vaut la peine. » Parce que il y en a un qui était déjà un label en particulier qui était un peu plus petit qui était prêt à endosser la promo de ce deuxième EP là.
OK.
Mais ça compliquait vraiment tout le reste du processus de release. Fait que lui, on l'a juste dit, écoute, genre on va finir cet album là nous autres tout seuls puis on se reparle plus tard. Puis il a fait « OK, pas de trouble ». Fait que ça, en ce moment, c'est sur glace. Puis on a aussi un autre label un petit peu plus gros qui avait manifesté un intérêt, mais qui avait été moins direct. Il n'y avait pas encore de proposition de deal ou whatever. Mais ils nous ont dit qu'ils voulaient écouter le nouvel album une fois qu'elle allait être finie de produire pour ensuite déterminer avec les équipes s'ils voulaient faire de quoi avec nous autres par après. Donc, les derniers échanges qu'on a eu avec eux, ça a été qu'on leur a envoyé l'album en question, puis ils nous ont dit « Parfait, on va... ça va devoir passer par une couple de personnes et éventuellement, s'il y a de quoi, on vous revient. » Puis on est... présentement en attente de réponse, mais on maintient quand même une ligne de communication directe avec la compagnie.
Ah, c'est nice ça, parce que pour vous, l'avantage, dans le fond, c'est ça, c'est un peu de partager le fardeau, j'imagine.
Oui. T'sais, l'avantage, c'est de avoir une boîte professionnelle qui gère tout l'aspect promo de ça, ce qui est souvent, j'ai l'impression, un truc que les gens sous-estiment, genre comme mais malheureusement dans l'ère où est-ce qu'on vit, ce qui va faire la différence entre un band avec du succès et un band qui en a pas, maintenant ça va beaucoup être une question de promo. C'est si t'arrives à bien promouvoir ton band, ben ta musique ou ton contenu ou whatever va se rendre aux places où est-ce que tu veux qu'il se rende. Mais c'est ça reste que c'est pas simple.
Non, c'est ça, hein? c'est beaucoup d'efforts puis de.
C'est ça. Donc, c'est sûr qu'avoir un label qui gère toute la partie promo d'une affaire déjà en partant, ça enlève un gros bout du fardeau parce qu'eux, ils ont déjà tout un réseau de contacts établi, fait que c'est beaucoup moins compliqué. Avec beaucoup moins d'efforts, ils peuvent t'envoyer ça bing, bing, bang, partout où est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Puis ça, c'est avant même d'arriver éventuellement à un point où est-ce que on parle de, tu sais, le soutien financier, etc., etc.
Vous, dans ce temps-là, est-ce que vous voulez payer les labels? Ou vous leur donnez une cote des revenus, j'imagine?
Non, dans le fond, le premier label avec qui on a discuté, c'est le seul avec qui on s'est rendu jusqu'à ces détails-là. Puis eux, dans le fond, genre, s'occupent d'envoyer notre musique et notre présence et notre contenu là où est-ce qu'il faut. Donc, tu sais, ils ont du monde en radio, ils ont du monde en whatever, tu sais, que ce soit en Europe, aux States, un peu partout. Donc, mettons que on produit un nouvel EP et qu'avec cet EP-là, on fait un vidéoclip de single. Au lieu de le sortir sur notre chaîne à nous et sur nos plateformes directement, ben, c'est le label qu'il sort sur ses plateformes à lui pour aller chercher plus de whatever. Mais on paye pas de cote directe sur rien parce que, comme eux autres font juste, entre guillemets, genre, pitcher la musique et le contenu là où est-ce qu'il faut. Fait que tant qu'il y a pas plus de gestion, genre de tant qu'ils sont pas plus, tu sais, ils ont comme différents stades de à quel point genre les deals, etc. Fait que si ça commence très bas, donc il y a pas gros engagement ni d'un bord ni de l'autre, là ben si la promo marche bien puis que tout le monde est content, ben, sacrément que si ça marche bien pour tout le monde, ben là, ils vont dire bon, ok, ben là, maintenant on peut commencer à parler de genre vous bouquer en tournée, puis whatever, si ça, puis là, c'est là qu'ils commencent à avoir plus de redevances et whatever. Mais au point où est-ce qu'on en était nous, c'était juste une entente mutuelle de genre vous nous cédez le droit de sortir votre contenu en échange du fait que votre contenu va se rendre beaucoup plus loin que quand c'est vous qui le sort.
OK. Ah ben c'est un bon deal quand même.
Pour un jeune band. Déjà, ben c'est ça. Pour un band qui commence, c'est un excellent deal.
Ouais.
Si ça avait pas compliqué tout le release, on l'aurait probablement pris, tu sais.
Ouais. Nice.
Ouais.
Good.
Fait que ben des affaires en prévision.
Ben ouais, ça regarde bien pour vous.
Mais c'est pour ça aussi qu'on est comme pas sûr de. En ce moment, on retient un peu notre souffle puis on sait pas quoi faire parce qu'à la base, on voulait peut-être composer un petit album acoustique juste pour le fun avant de refaire un album métal. Mais là, si on tombe sur un record deal, ben là, on scrappe le projet acoustique parce que là, il va falloir chier des albums métal parce que c'est du label métal.
Ouais.
Bref.
Mais c'est ça, parce que vous faites pas mal d'acoustique aussi. Tu disais tantôt c'est ton premier show métal, mais il y avait eu d'autres shows acoustiques. Ça ressemble à quoi votre setup acoustique un peu? Y a-t-il une bass acoustique ou les drums, c'est ceux qu'on voyait dans le clip? Ou?
dans le fond, les kits de drums qu'on voit dans le vidéoclip acoustique, c'est juste genre une sélection très spécifique de pièces de drums que notre drummer a. Fait que c'est genre des gros floor tom puis un bass drum que tu mets debout, genre des trucs comme ça, pour le look. Mais on a un full shell kit de drum bien normal qu'on utilise pour les shows de métal. Puis quand on fait les shows acoustiques, c'est juste une version comme skin down de ça. C'est genre un plus petit bass drum avec juste un snare, un tom, un hi-hat, une cymbale, une ride. Là, pour le mettre un full gros kit. Genre.
Ah ouais.
Surtout parce que quand on joue des tunes acoustiques, les beats sont un peu moins complexes, donc t'as pas besoin d'un full kit de drum metal non plus. Puis il y a on a déjà fait des shows complètement à sec, c'est-à-dire unplugged, où est-ce qu'on jouait avec donc une base acoustique, etc. Mais c'est vraiment le truc le moins optimal possible pour faire un show de musique, je ne vais pas te mentir.
J'imagine.
C'est ça. Mais ça reste le fun, là, mais ça, t'as plus mal à gueule à la fin.
Ouais, pas de doute. Puis vous faites ça où, ces shows acoustiques-là?
Mais le tout premier show acoustique qu'on a monté, c'était pour le Salon de la Passion médiévale. Donc, okay. Le même événement auquel on était en fin de semaine. C'est notre quatrième d'affilée. Puis entre-temps, on a commencé à jouer dans d'autres petits événements un peu plus. C'est toujours un peu plus dans les contextes médiévales fantastiques qu'on s'en va jouer de l'acoustique. Donc, les festivals médiévales de Lanaudière. Là, on vient de se faire booker pour un événement qui s'appelle les Fêtes païennes de Terrebonne. Il y a Salon de la Passion médiévale. Il y a... Voyons, je sais qu'on a fait d'autres affaires là-même. On joue une fois de temps en temps directement dans des grandeurs nature. Il y a des grandeurs nature médiévaux qui nous payent pour venir à une de leurs games puis monter un spectacle in-game dans le contexte du jeu. Plus récemment, depuis 2 ans, on a commencé à jouer à Bicolline. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, le plus grand festival médiéval fantastique en Amérique du Nord.
Aïe, aïe.
Quand même, c'est situé au Québec, hein, précisément, c'est dans le coin de Shawinigan, c'est à Saint-Mathieu-du-Parc. Puis c'est le plus gros festival médiéval en Amérique du Nord.
Ouais, c'est un peu méconnu, cet univers-là, mais c'est assez intense quand même. Même à votre show, vous aviez des pots puis des haches que vous vendiez. Puis, ben non, pas que vous vendiez, là, mais que vous aviez en display.
Oui, absolument. On a la chance de faire affaire avec un gars qui s'appelle Mathias Tremblay, des Artisans du Monde. C'est un gars qui a monté une coop d'artisans québécois pour juste promouvoir et envoyer plus loin le travail des artisans locaux. Fait que lui, dans la vie, il est tanneur taxidermiste. Donc, toutes nos peaux, maintenant, viennent de lui. Puis, vu qu'il fait affaire avec bien des artisans, bien beaucoup de nos props maintenant aussi, nos haches, nos couteaux, nos affaires de même, tout ça, viennent de lui aussi. Parce que lui tient ça des artisans qui promote dans sa coop. Par exemple, tout le décor du vidéoclip acoustique qu'on a sorti, et signé justement les Artisans du Monde. On a même mis le logo de la compagnie dans le vidéoclip pour créditer. Toutes les poules, toutes les armes, les crânes, l'ours polaire qu'il y a sur le fucking trône sur lequel je suis assis en train de crier, là, genre c'est toutes ces affaires-là, les Artisans du Monde.
Wow, très nice.
Yep. Mais avant, c'était tout. T'sais, au début, quand on a commencé, c'était tout 100% moi qui gérais ça avec des trucs de mon costumier personnel que j'ai amassé dans mes années de grandeur nature, médiévale et compagnie.
T'sais. Parce que t'en faisais aussi avant des trucs comme ça, des grandeurs nature.
Bien sûr, ça fait 13 ans, bientôt 14 que j'ai commencé à faire ça.
Quand même. Dans ces contextes-là, c'est à quel point c'est important d'être fidèle. Tu sais, tu parlais tantôt de la série Viking qui avait un peu moffé les costumes d'époque. Fait que toi, c'est quelque chose que tu fais particulièrement attention ou vous permettez un peu de fantaisie?
Pour ce qui est du band, à 100 000 % on se permet toute la fantaisie qu'on veut. C'est un band de métal.
Ouais, that's it.
Tu sais, je me rappelle qu'au début, on avait eu quelques critiques là-dessus de monde qui regardait le vidéoclip. Ouais, mais ils sont même pas vraiment habillés en viking. Puis c'est le beau-frère de notre guitariste, Laurent Lours, qui a répondu à ça d'une manière absolument géniale en disant « Est-ce que tu trouverais ça intéressant à regarder s'il était habillé en petite laine molle puis genre en whatever, tu sais, comme non! Regarde les putains d'animaux en chest avec les bras à l'air puis le poêle puis profite de la style musique puis ferme ta gueule, c'est pas un cours d'histoire.
Burn.
Quand même. Merci Adri.
Solide.
Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'histoire viking compagnie, puis le monde qui font de la reconstitution historique viking, j'admire ça énormément, je trouve ça incroyable. J'essaie d'amener un petit peu de ça dans ce que je fais à Bicoline maintenant avec ma guilde et compagnie, tu sais, l'aspect un peu viking qui se veut être quand même respectueux de l'histoire. Mais Bicoline, c'est un univers médiéval fantastique.
Okay.
Il y a des dieux du chaos. Nous autres, on est des vikings. On est devenus des vikings du chaos. La guerre.
Rien de moins. Ah, oh, c'est nice. Fait que là, vous êtes des gros clients de l'imaginaire là, avec les épées réalistes en mousse puis tout ça. Hein?
Ben oui, absolument.
Ah, ça doit être intéressant à voir.
Ben, c'est tout un univers. Puis moi, j'ai grandi là-dedans. Puis c'est un des rares trucs que j'ai découvert dans ma vie qui me fait sortir, qui me fait faire du sport, puis qui me fait socialiser avec des gens où est-ce que j'ai pas envie de mourir à la fin. C'est comme. J'étais genre, damn, this is a good thing. Genre, fait que j'ai 13 ans en arrière, j'ai jamais arrêté.
Good. Puis en plus, ça t'a amené des belles inspirations pour votre band.
Exactement.
Ouais, super intéressant, ça. En tout cas, ceux qui vous ont pas vu en show, allez voir ça parce que c'est ça, il amène vous amène une belle partie là, de ça. Ton costume, entre autres, en deuxième moitié, t'es assez intense avec juste une peau et un genre de pagne.
Oui, ben ça d'ailleurs, c'est une nouveauté j'essaie les nouvelles affaires, dans le fond.
les rares filles dans le show doivent trouver ça cool.
Oui, ben, je dirais, il y a probablement quelques filles et peut-être même quelques garçons qui ont bien profité de ce moment-là. Et nous autres, on n'a pas honte de s'objectifier quand on est sur stage. C'est à ça qu'on sert.
Ah non, puis c'est ça. Puis quand on vous voit, ça flash, tu sais, on accroche.
Mm. c'était un grand point d'orgue dans la création et dans le développement artistique de ce projet-là.
En plus, après, on écoute l'album, vous sonnez super bien. Fait que tout le look est très professionnel. Félicitations.
Ben, merci beaucoup, man. Puis, je veux dire, t'sais, j'aurais aimé que, là, évidemment, le reste des boys vont éventuellement écouter ça et recevoir ces compliments, mais c'est des compliments qui sont tout autant destinés au reste de l'équipe que tu sais, moi, au final, j'ai très peu à faire dans la actual composition musicale. T'sais, moi, j'écris des paroles, puis j'écris les paroles, je chante, puis je fais un tout petit peu de composition mélodique, etc. Mais tu sais, la vraie grosse job de composition, c'est toutes les boys qui le font.
Ben, d'ailleurs, ça me fait penser, je suis quasiment content que Thor ait empêché notre premier enregistrement parce qu'on a appris entre-temps que vous avez annoncé un show, trois shows, je pense, avec Fall of Stasis.
Oui, on a une belle petite tournée avec nos amis de Fall of Stasis. On est très contents de ça, d'ailleurs. Ça faisait fucking longtemps, la dernière fois qu'on a joué avec eux autres, on a fait les foufs. Je me souviens même plus quand, c'était il y a au moins un an de ça, là, fait qu'on... On était dû pour faire de quoi avec eux autres. On aime beaucoup ça, jouer avec eux. C'est une bonne gang.
Je pensais à la Sainte Paix. Ben ça, c'est notre spot, les lutins. On essaie d'ailleurs. On est souvent là. Fait que je vais peut-être aller faire un tour à Drummond ce vendredi-là à la Sainte Paix.
Bon, c'est parfait. Si, on va pas se reprendre au show directement encore pour une deuxième expérience. Mais toute nouvelle, pareil.
That's it. C'est le 13 juin. On va sortir les dates entre-temps, puis on fera l'annonce de vos autres shows pour les autres places.
Ah ben, merci beaucoup. Pour donner un coup de main à la promo, justement.
Exactement. On travaille fort pour qu'il y ait du monde à la Sainte-Paix. Ça marche pas toujours comme on voudrait, mais coudonc. Et qu'il y en ait plus des shows de métal.
toujours plus. C'est s'il y a jamais quelque chose qui va... S'il y a quelque chose qui va toujours en falloir plus, c'est des shows de métal.
Moi, j'ai pas à rebondir. Tu peux pas expérimenter le vrai métal tant que tu vois pas ça live. Tu sais, dans tes écouteurs, c'est quelque Absolument. Chose. Mais live, ouais. c'est tellement une expérience différente. Tu sais, dans votre cas, vous avez tout le visuel. Mais même des bandes qui se cassent un peu moins la tête, ça vaut la peine de les entendre live.
Ben, il y a une de nos, très grandes fans de Wolf and Nair, qu'on aime beaucoup, qui a, genre, suite à être venue nous voir en fin de semaine, elle a sorti un très beau texte par rapport au fait que la musique live, spécifiquement la musique live, c'est une de ses grandes passions. Puis, c'est comme, oui, c'est le fun de découvrir de la musique à travers des albums, des plateformes, etc. Mais comme tu dis, c'est en allant voir de la musique live que tu experience la musique. T'sais, très récemment, je suis allé voir avec mon père et mon frère le spectacle de Dweezil Zappa à la Place des Arts.
Nice.
Donc Zappa qui joue du Zappa. Puis c'est son fils exactement qui refait des tournées, qui a monté un band puis qui prend du Zappa, puis même maintenant il est rendu à même adapter des tunes. Puis entre-temps, tu sais, la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était comme il y a 10 ans quasiment. Puis j'étais aussi allé voir le show back then avec mon père. Mais entre-temps, ils ont découvert des trucs inédits, des choses qui sont jamais sorties, genre des pré-prod, etc. de Zappa. Fait que lui, il a repris ces choses-là, puis il les a comme, tu sais, fini entre guillemets. Donc, il mixe le fait de jouer des tunes de Zappa en concert avec le fait de sortir des nouvelles affaires à partir des trucs redécouverts que Zappa avait pas sortis. C'est justement toute une expérience musicale.
Ouais, ça doit, vraiment. Ouais. Chanceux d'avoir vu ça.
C'est des guitaristes de fou. Ben oui. Ils ont un band au complet de Mongols. Il y a même un gars qui saute de genre guitare au drum. Ah ouais. Oh ouais, genre c'est incroyable. C'est vraiment un hostie show. Et puis c'est toute une tournée, là. Fait que ça mérite tristement d'être vu.
Nice. Ben, tu me partageras le texte de ton ami, on partagera ça au lutin.
Ouais, absolument, je suis down. Il faudrait que je retrouve le post, mais ouais, je vais faire ça.
Nice. Ben, un gros merci. On va finir peut-être en parlant de vos influences. On fait toujours ça au lutin quand on reçoit des artistes, on aime ça entendre vos pièces, mais aussi un peu d'où qui viennent ces pièces-là. Fait que je sais pas si c'est toi qui les as choisies, mais vous nous avez envoyé 3 pièces qu'on va mettre.
Ouais, ben, on avait brainstormé un peu avec mon bassiste, qu'est-ce qu'on voulait vous envoyer. Finalement, il a fait une sélection, puis moi, j'étais 100% d'accord avec la sélection qu'il a choisie, donc c'est ça qu'on vous a envoyé.
La première, c'est Cannonen Fieber, un groupe que j'ai découvert l'année passée. Mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il me semble que c'est plus du... ceux qui font le gros black, un peu à sonorité, un peu Première Guerre mondiale.
Oui, absolument. C'est tu sais, on a développé dans les dernières années des influences un peu plus extrêmes, du metal, du death metal, du black metal. T'sais, on a commencé à ajouter un peu plus de sonorités extrêmes dans ce qu'on fait. Puis, ben, Cannonen Fieber, ça a été un très gros contributeur à ça parce que lui mélange black et death avec une maîtrise ridicule.
Ouais, c'est ça, coche.
Toutes ces tunes te prennent la gueule, genre comme une tonne de briques, là, puis genre, ça nous a juste donné, c'est un des artistes qui nous a donné envie de faire des tunes plus dans ta gueule, plus extrêmes, musicalement parlant.
Ouais, parce que c'est un one-man band en plus. Il est tout
ben
seul.
C'est, oui, c'est lui, c'est ouais, lui hein. Qui compose toute la patente, puis il y a un band live maintenant. Mais oui, c'était un one-man band quand ça a commencé, oui.
Ça nous fascine, les one-man band, on en sort tout le temps. Ah ouais, c'est juste une personne qui fait tout ça.
C'est toute une culture, les one-man band.
Quand même. Ouais, fait que ça, c'est un extrait de leur album. Et shit, mon allemand est loin. Menschenmühle.
Mm-hmm.
2021.
Menschenmühle,
ouais. Puis là, le titre de la pièce, je pense que je me sais même pas. Versart und Umgerut. Something like that.
Versart und Umgerut.
Voilà, excellent. Excellent allemand.
Merci.
T'es fluent ou juste les...
Non, même non. Pas. C'est même pas que je suis fluent en allemand. C'est juste que j'ai fait de la chorale classique. Fait que j'ai été drillé et formé en phonétique.
Très nice.
J'ai beaucoup de facilité avec la phonétique, mais je maîtrise pas les langues pour autant.
T'es capable de les lire, mais ce que tu dis, c'est pas toujours évident.
Ben ça, je suis capable de les lire et de les prononcer, mais je capte pas nécessairement c'est quoi que je dis ou que je lis. Mais,
ça peut être ouais. dangereux, ça.
Oui, non, je suis quand même t'inquiète. J'ai un semblant de maîtrise pareil.
Ouais, ouais. Je blague. L'autre album, l'autre artiste, c'est Caladan Brood, eux, je les connaissais pas du tout avec de leur album Echoes of Battle. Ça, c'est un peu plus dans vos influences folkish, j'imagine, il me semble.
Ben, oui, il y a quand même un aspect un peu folk, mais Caladan Brood, c'est un band de black ambiant qui penche même vers ce qu'ils appellent le dungeon synth.
Oui, ah, c'est ça.
Tu sais, un peu aller, voyons, Summoning et compagnie. Là, ben, Caladan Brood ne cache pas leurs influences de Summoning, et nous, on ne cache pas nos influences de Caladan Brood. Fait que pour tout ce qui est justement le côté un peu plus ambiant, symphonique, folk avec les... Tu sais, que tu fermes les yeux puis tu vois le château médiéval au loin, là, genre fucking avec le feu qui brûle sur le haut de la colline. Là. C'est une autre partie de nos influences qui nous touche principalement, j'ai envie de dire.
Ouais. Non, on avait fait un spécial Dungeon Synth parce qu'il y a un autre... Il y a une autre band à qui on avait parlé qui nous avait sorti ça, puis je dois avouer que le spécial nous a moyennement nous a moyennement passionnés, disons, mais si ça peut vous influencer dans la bonne direction, c'est correct.
Ben c'est très niché quand même comme style musique, mais tu sais, nous, je pense pas qu'il y a personne dans mon band qui est fan de pur Dungeon Synth, mais ce qui est bien avec des bands comme Caladan Brood ou Summoning, c'est que ça mixe Dungeon Synth avec black metal ambiant, tu sais, parmi le même genre de style de black metal ambiant, très spacey, très le vibe, transport, etc., on peut citer Canbard, qui viennent de Belgique, si je ne m'abuse. On peut citer Summoning, donc il y a beaucoup plus de Dungeon Synth, mais pareil. Un side project des gars qui ont fait Caladan Brood, c'est Gallow Braid. Toutes ces ambiances-là de black metal très nostalgique, ambiant, profond, c'est bien, c'est drette là-dedans.
Non, c'est clair. C'est, quand c'est amené comme ça, c'est bon. Mais pur Dungeon Synth, c'était un peu moins évident. Mais c'est correct. Le troisième band que vous avez choisi, c'est très drôle parce qu'on a fait, pour le show avec Xaon, Vortex et Alexir, on avait parlé, ben vous êtes le quatrième band qui sont au lutin. Et les quatre bands, vous avez choisi le même artiste, Septic Flesh.
Ah, oh, ben ça, c'est drôle en sacrement.
Vortex, Xaon, Alexir ont tous choisi de mettre du Septic Flesh. Pas la même pièce, je pense, mais presque.
C'est tellement bon! Ah, mais tu vois, comme de fait, les grands esprits se rencontrent. Et voilà. Quand les grands esprits se rencontrent, ils ont du fun, vois-tu?
Et voilà.
Mais, oh, wow! Hey, gros big up à vous, les boys, parce que ça, c'est quand même bon.
Vous étiez faits pour faire un show ensemble.
Moi, ouais, ben c'est ça, c'était le destin avait tout prévu. Mais non, mais je veux dire, comme de fait, Septic Flesh, tu peux pratiquement rien dire de négatif sur Septic Flesh. Là. Moi, j'ai découvert Septic Flesh en les voyant en show, justement. On parlait de ça tantôt. Là. On était la première fois que Ulfener a pris genre une fin de semaine en retraite pour composer, etc. Il y avait un show de Indiferum et Septic Flesh. Avec comme band opener The Unconscious Mind, qui était un band québécois, évidemment. Puis c'est mon bassiste qui m'a convaincu de pogner un billet, puis il dit hey, allez, on descend au show, on y va, on remonte dans le nord après pour continuer de composer. T'inquiète, ça va être sick. Puis moi, j'avais jamais écouté les bands avant. Fait que j'ai découvert Septic Flesh en show après avoir entendu. Wow. 2-3 bouts de tunes dans l'auto en route, tu sais. Mm-hmm. Puis, wow, man, les sonorités, le look, les costumes,
tout, le total.
Tout était là. Puis là, ben, en plus, depuis, ils ont fait des tournées avec orchestre carrément directement. Qu'est-ce que tu veux demander de plus que ça?
Ouais, ça, j'aimerais ça voir ça avec un orchestre. Ça doit être impressionnant.
Ben, Voivod viennent de faire de quoi ben
ça,
avec
je
un orchestre.
Ça, je l'ai vu, puis c'était ce show-là, mais je voulais me désordre des orchestres.
Ah, oh, c'est clair.
Je sais pas si tu l'as vu, lui, Voivod.
Je sais pas, mais j'ai pas pu voir le show malheureusement, mais la semaine avant le show, j'étais assis à Montréal Metal avec Rocky de Voivode qui venait parler, qui est venu parler de ça justement. Fait qu'on j'ai eu l'occasion de jaser de ça avec lui, puis il a parlé un peu des origines du projet puis tout. C'était incroyable comme histoire.
La seule affaire tragique, c'est qu'ils l'ont pas enregistré, je pense.
Ah non?
Je pense pas.
Shit, man.
Mais le son était superbe. Tu sais, tous les violons, tout ça, étaient tous mic'és. Fait que le mix était vraiment bien fait. Tu sais, y a personne qui enterrait personne. Ça sonnait incroyable.
C'est déjà, c'est compliqué de faire un mix à 5 personnes sur un stage. Imagine de faire un mix parfait avec un band de métal puis un orchestre symphonique, man.
Rien de moins.
Oh, shit. Ouais.
Ouais.
Le soundman, j'espère que le soundman il était crissement bien payé.
Ouais, pas, je suis pas trop inquiète pour lui à l'OSM.
Ouais, c'est ça.
Nice. Fait que ben, Sceptique Flèche, vous avez choisi Vampire of Nazareth de leur album 2011.
Mm.
Plus ancienne toune, mais quand même.
Un peu plus ancienne, ouais.
Mais ça rentre toujours bien, Sceptique Flèche.
Ça reste un grand classique, exactement.
Tout à fait. Excellent. Ben écoute, Sacha, aka Fenrir, merci pour ta participation au Lutin, c'était vraiment le fun.
Ben, merci à toi, man. Merci de nous avoir invités. Je suis désolé de finalement avoir été seul là, mais j'ai essayé de carry toute la tâche tout seul. J'espère que tout le monde. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé, surtout, mais que.
Vraiment
pas. En tout cas, c'était le fun. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, jaser avec toi, puis venir sur le podcast, man. C'est vraiment nice.
Excellent. Puis avec un peu de chance, on se reverra à la Sainte-Paix avec de la bonne bière.
Absolument.
Et des bons amis.
Tournée de l'été avec fucking Fall of Stasis, man. J'ai hâte en sacrament.
That's it. Ouais, j'aime bien Fall of Stasis aussi. Fait que, ouais, c'est quasiment un show à ne pas manquer.
Mais hein.
All right. Ben, merci encore. Puis, ben, à la bientôt.
À la bientôt.
À la bientôt, sorte.
Das Gewehr in meiner Hand.